dans quelques minutes. À tout de suite, Florent.
À tout de suite.
Leclerc, bonjour.
Oui, bonjour. Hier, mon mari a rapporté du beau muguet de chez Leclerc.
Oh, ça c'est gentil. Ça vous a fait plaisir?
Bah, ça aurait pu. Sauf qu'en fait, il l'a offert à sa mère.
Aïe. Dites-lui de repasser en prendre un autre. Du 29 au 30 avril chez Leclerc, les trois brins de muguet et une rose sont à 2,39€.
Ah bah, à ce prix-là, je vais m'en offrir à moi-même. Ce sera plus sûr.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Existe en différents coloris, voire détails en point de vente. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Europe 1, il est 23h. Et c'est un tour de l'info avec Maël Hassani, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Châteauroux va rendre hommage à l'un de ses enfants samedi prochain. Une marche blanche sera organisée en mémoire de Mathis, 16 ans, poignardé à mort en pleine rue le week-end dernier. Le cortège va passer devant l'école de l'adolescent, son domicile, mais aussi le restaurant de son père et celui où il travaillait. Le principal suspect du meurtre est un jeune Afghan de 15 ans. Il est mis en examen et placé en détention provisoire. Un premier comité politique de la campagne des européennes au siège de Renaissance ce soir. Le Premier ministre Gabriel Attal a réuni plusieurs poids lourds du gouvernement, dont Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, mais aussi le patron d'Horizon, Édouard Philippe, pour leur demander d'en faire plus pour soutenir la liste menée par Valérie Ayé, à la peine dans les sondages. Les ministres devront faire un déplacement en rapport avec leur périmètre le 9 mai prochain, journée de l'Europe, pour valoriser le bilan européen. Autre parti en campagne, la France Insoumise, qui espère mobiliser son électorat autour de la cause palestinienne. Mais les propos de la numéro 7 sur la liste, Rima Hassan, au sujet du Hamas, lui ont valu une convocation par la police pour apologie du terrorisme aujourd'hui. La militante est ressortie tout sourire des locaux de la PJ en expliquant qu'elle assumait ses déclarations. La chef des députés LFI, Mathilde Panot, a également été entendue par les enquêteurs pour le même motif. Les blocages d'universités devraient se poursuivre demain. Plusieurs organisations classées à l'extrême gauche appellent à de nouveaux rassemblements pro-Gaza dans les facs et les IEP comme Sciences Po. Des actions sont prévues à Saint-Étienne, Rennes, Strasbourg ou encore Menton. Plusieurs universités ont été occupées une partie de la journée aujourd'hui, notamment la fac de Tolbiac à Paris. Ce mouvement a débuté dans les universités américaines, notamment sur le site de Columbia à New York. Et ce soir, la direction hausse le ton et menace de renvoyer tous les étudiants pro-Gaza qui occupent et qui vandalisent un campus depuis la nuit dernière. Selon le président américain Joe Biden, ce type d'action n'est pas un exemple de manifestation pacifique. Toujours aux États-Unis, le gouvernement s'apprête à changer le statut du cannabis. Selon l'agence France Presse, le ministère de la Justice va recommander de faire passer cette drogue de la catégorie 1, celle des substances très addictives, à la catégorie 3, dans laquelle figurent certains médicaments à base de codéine. Cette décision aurait des conséquences très importantes sur la commercialisation du cannabis. La piste terroriste est écartée après l'attaque à l'épée dans les rues de Londres ce matin. Un garçon de 14 ans a été tué et 4 personnes sont blessées, dont 2 policiers. Le suspect est un homme de 36 ans. Il est en détention. Ses motivations restent inconnues pour l'instant. En football, match nul de partout entre le Bayern Munich et le Real Madrid à l'issue de la première demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un doublé de Vinicius Junior pour les Madrilènes et des buts de Leroy Sané et Harry Kane pour les Allemands. Match retour prévu le 8 mai prochain. D'Autriche, je vous en parlais dans Europe 1 Matin. Il y a 36 ans, jour pour jour, une certaine Céline Dion remportait l'Eurovision à seulement 20 ans. En interprétant ce titre, Ne partez pas sans moi. Elle représentait la Suisse ce jour-là à Dublin. Et oui, elle représentait la Suisse, tout à fait.
Et à quel titre, en fait?
Eh bien, pour participer à l'Eurovision, il est possible d'être d'une nationalité qui n'est pas une nationalité européenne et vous choisissez un pays. Je crois que c'est...
Oui.
Plusieurs artistes ont déjà fait ça, absolument.
Oui. Bah, je crois que la dernière artiste qui représentait la France n'était pas française.
Ah, vous avez raison. Je crois qu'elle était d'ailleurs québécoise.
Oui,
il me semble.
Exactement, voilà. D'origine algérienne.
Tout à fait. Mais Céline Dion, ce jour-là, était déjà connue au Québec et en France. Elle avait fait des émissions, notamment sur Europe 1 avec Michel Drucker. Et cette soirée du 30 avril 1988 fut décidément magique pour Céline Dion, parce que c'est ce soir-là aussi qu'elle a embrassé René pour la première fois.
Ouh.
Le soir de sa victoire à l'Eurovision, ce serait magnifique.
Magnifique.
Vous qui volez vers d'autres vies, laissez-moi vivre.
Je crois savoir, Maël, que vous êtes un fan total de Céline Dion.
Mais écoutez,
c'est ce que me dit Florian.
Mais j'adore, j'aime bien Céline Dion. Ouais. Florian a raison, il est bien informé.
Est-ce que vous avez vu le film où Valérie Le Mercier joue le rôle de Céline Dion?
Je ne l'ai toujours pas vu,
mais regardez-le. Bah oui. Je vous jure que
c'est pas la première fois que vous me dites.
Et en plus de ça, vous voyez, moi, je ne connaissais pas vraiment bien cet artiste parce que bon, grand artiste de variété. Très populaire, je ne vais pas vous dire que j'avais une passion éternelle pour elle, et ce film m'a vraiment beaucoup plu. Valérie Le Mercier est incroyable dedans, et c'est comme ça qu'on apprend la vie de Céline Dion, la rencontre avec René, tout est extrêmement bien joué, avec l'accent canadien, enfin, voilà, et on voit l'ascension de cette chanteuse, et sa maladie qui la touche, enfin bon, voilà, c'est un film vraiment, si vous êtes fan, regardez-le.
Mais enfin. Je regarderai, je vous le promets, Olivier.
Je signale quand même la sortie d'un film fantastique, Deux Frères, qui sort actuellement, qui est sorti depuis mercredi dernier, et qui est un film qui relate une histoire incroyable. Ce film avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal, qui relate l'histoire incroyable de deux enfants abandonnés par leur mère après-guerre et qui vont vivre près de 7 ans dans la forêt, du côté de La Rochelle. Il y a une excellente interview. Alors, l'interview est excellente parce que c'est moi qui l'ai faite, l'interview.
D'accord. Hein,
mais le monsieur qui était un de ses deux enfants et qui a inspiré donc cette histoire se raconte, et je vous conseille vraiment d'aller sur l'application Europe 1, écouter le récit de cette aventure et qui a donné ce film sur l'Instagram d'Europe 1 précisément. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce film qui est fantastique. Je suis allé le voir hier. C'est une merveille, ce film.
Ça donne envie.
Voilà. Bah écoutez, on vous retrouve tout à l'heure à minuit.
Tout à fait.
Pour peut-être une petite surprise encore.
Peut-être.
Je sais pas si vous avez le temps.
Hein. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe 1, la libre antenne. Olivier Delacroix.
Il est 23h passées de 7 minutes. Vous êtes sur Europe 1. Si vous nous rejoignez maintenant, c'est la libre antenne d'Europe 1 et vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21. Je vous rappelle que nous sommes là pour vous écouter. Nous sommes avec Florent depuis le début de cette émission. Florent qui nous raconte l'épreuve de cette tumeur qui le frappe à 35 ans. Et puis après, une sorte de rédemption, de résurrection qui vous pousse finalement à entreprendre ce que vous avez envie de devenir, de faire. Vous aimez l'humour, vous faites marrer vos copains et l'une de vos premières vidéos fait 1 million de vues. Comment une vidéo fait 1 million de vues? C'est ça. Moi, ça me, à chaque fois,
Je sais rien. J'ai pas de recette secrète.
C'est incroyable quand même. C'est viral en fait. C'est ouais.
Bah surtout que j'avais pas vraiment d'abonnés, hein. Moi j'avais mon compte Twitter donc en 2015, j'avais 20 000 abonnés quand même sur Twitter, donc c'est pas rien non plus.
Ouais,
mais j'avais créé une page Facebook donc pour remettre mes meilleurs tweets sous le pseudo Le Parfait Inconnu là-dessus.
Oui.
Je pensais que ça allait éclater parce qu'il y avait quand même plus d'utilisateurs sur Facebook que sur Twitter, et ça n'éclatait pas spécialement. J'avais quelques milliers d'abonnés, 3 000, 4 000 peut-être, mais pas énormément. Et quand j'ai posté donc mes premières vidéos et qu'elles ont éclaté, là j'étais comme un gamin, quoi. Je m'y attendais pas.
C'est incroyable. Et quand on fait 1 million de vues comme ça, on touche de l'argent ou quand c'était
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout. À l'époque sur Facebook, surtout
c'était pas rémunérateur.
En 2016, non, c'était pas rémunéré. Je vais casser le rêve de beaucoup de gens qui aimeraient bien devenir riches sur Facebook.
Mm-hmm.
C'est pas pour tout.
Mais alors aujourd'hui, vous sévissez sur quelle plateforme en fait aujourd'hui, sur quelle application?
Eh ben, j'essaie d'être un peu partout, hein, comme font tous les créateurs de contenu.
Oui.
C'est-à-dire que moi, avec le temps, je me suis inscrit également sur Instagram.
C'est devenu votre boulot quand même, non?
J'ai toujours un petit job à côté.
D'accord.
Ouais, là, je casse un autre mythe. Je ne suis pas un influenceur. J'ai jamais aimé qu'on dise que j'étais un influenceur parce que je trouve que c'est pas un mot. J'essaie d'influencer personne, moi.
D'accord.
J'essaie de les faire rire, mais j'essaie pas de les influencer.
C'est vrai que c'est un drôle de mot. C'est vrai.
Oui. Je préfère créateur de contenu.
Ouais, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Vous avez raison.
Exactement.
Et donc,
fais jamais de placement de produit.
Ouais. D'accord. Vous avez combien d'abonnés sur Instagram aujourd'hui, par exemple?
J'en ai 110 000. 119 000.
C'est bon, 110 000 quand même.
Bah, c'est la plateforme sur laquelle je suis un petit peu en retard par rapport aux autres.
D'accord. Vous êtes sur TikTok aussi?
Oui, bah TikTok est arrivé au départ, je m'étais dit je vais reposter des petites parties de mes
vidéos. Oui, parce que vous correspondez vraiment même au format TikTok, parce que c'était des courtes vidéos sur TikTok, donc est-ce que ça a suivi sur TikTok?
Alors oui, ça va, j'ai 1 million d'abonnés, donc c'est quand même
ça
cool.
Va. Là, quand même, c'est rémunérateur, 1 million quand même. Je ne veux pas casser le mythe, mais vous prenez un peu d'argent quand même, non?
Un petit peu. Mais mes vidéos me coûtent cher en fait à réaliser. Donc avant de réussir à gagner de l'argent, faut s'accrocher, Olivier.
On va revenir tout à l'heure à bien évidemment l'épreuve qui a précipité tout cela. Mais en restant donc sur l'aspect créateur et créatif. La prochaine étape, c'est que vous fassiez du cinéma, que vous soyez comédien, non? Vous venez de faire votre premier court-métrage, me semble-t-il.
Je serais comme un... Là, vous réveillez le gamin qui est en moi. Si un jour je deviens acteur, ce serait incroyable. Je serais heureux comme jamais. J'adorerais jouer dans un film.
Ouais. Vous avez pris un agent ou pas encore?
Eh ben non. J'attendais de passer sur Europe 1 pour dire si jamais il y a un agent... qui a l'habitude de faire ça, enfin j'espère qu'il a l'habitude de faire ça, c'est son vrai métier, mais qui recherche un acteur déterminé comme moi, eh ben il faut appeler au 01. Vous avez dit quel numéro déjà? 01
80 20 39 21.
Voilà, faut nous appeler, messieurs dames.
Exactement.
Je recherche un agent.
Bon, mais en plus vous savez, vous pourriez quand même démarcher aussi parce que avec 1 million d'abonnés, vous pouvez intéresser des agents. Il y a aujourd'hui des jeunes agents aussi, il y a aujourd'hui des agences aussi qui s'occupent de créateurs de contenu. Je vous dis ça parce que j'ai découvert ça en tournant avec une Miss France qui a été Miss il y a 7 ou 8 ans, et j'ai tourné dans l'agence qui s'occupe d'elle, et ce sont vraiment de jeunes agents, quoi. Il y a toute une génération autour du numérique, il y a tout un tas de boulots qui se sont créés, et avec 1 million d'abonnés sur TikTok, vous pouvez intéresser des productions, ça, je vous le certifie. Donc
j'espère que vous avez raison alors.
Écoutez, n'attendez pas que, alors bien évidemment, c'est toujours bien de jeter une bouteille à l'eau sur la libre antenne où il y a on n'est pas 1 million d'abonnés tous les soirs, mais il y a 700 000 personnes qui passent le temps de nos 3 heures d'antenne, et il y a en moyenne 220 000 personnes présentes en permanence sur cette libre antenne, donc c'est pas rien. Mais
il y a 200 000 personnes qui nous écoutent.
220 000, ouais, ce sont les derniers
bordel.
Chiffres. C'est pas mal quand même.
Faut que je fasse gaffe à ce que je dis alors.
Et alors moi j'ai que 32 000 abonnés sur Instagram, mais c'est pas mal quand même. Je suis content. Bon, sauf qu'en plus j'ai jamais trop travaillé mes Instagram, je suis un peu indiscipliné comme garçon.
C'est pas bien ça. Alors c'est moi qui vais vous aider là.
Revenons à cette épreuve de qui est toujours présente dans votre vie, puisque cette tumeur n'a pas pu être enlevée complètement. Florent.
Exactement. Donc il m'avait retiré une grosse partie de la tumeur.
Oui.
Elle faisait, alors c'est un chiffre qui fait un peu peur, elle faisait 30 cm cubes. Mais c'est grosso modo 3 cm par 3 cm. Voilà, c'est une balle de ping-pong. Et il m'avait laissé 6 cm cubes, donc une petite boule, en 2016. Donc je me suis opéré en 2016 de ma tumeur cérébrale. Et depuis, elle continue à grandir. Je l'aurai toute ma vie.
D'accord.
Ça, c'était une première information, je l'aurai toute ma vie. Et elle continuera à grandir toute ma vie. Donc en 2017, un an plus tard, il m'a annoncé que ma tumeur, en faisant des analyses, que ma tumeur, il faudra m'opérer tous les 3-4 ans.
Oui, c'est ça, il faudra la réduire tous les 3-4 ans.
C'est ça. Là, j'ai de nouveau chialé, je vous le cache pas, c'était une seconde annonce, parce que tous les 3-4 ans, comment voulez-vous faire des projets long terme quand on vous dit tous les 3-4 ans, on va devoir vous réopérer?
Oui.
On se met à vivre à court et moyen terme.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez donc, depuis 2016, été réopéré au moins une fois ?
Eh ben non.
Toujours
pas. Il m'a annoncé ça en 2017.
Ouais.
Et depuis 2016, mon opération 2016, je ne me suis jamais refait opérer.
D'accord, vous faites.
Lentement.
D'accord, lentement. Donc ça veut dire que c'est plutôt positif. Comment, quel âge vous avez aujourd'hui ? 35 ans, hein, c'est ça ?
35 ans, oui.
D'accord. Comment on vit avec. Ce danger, j'ai pas envie de parler de danger parce que vous êtes sous contrôle, vous avez un excellent chirurgien qui
Je vois un neurologue, ouais, alors au départ je le voyais tous les 3 mois, puis tous les 4 mois et demi à Nancy, puis maintenant c'est tous les 6 mois. Mais oui. Je suis vraiment toujours accompagné, on fait une IRM tous les 6 mois et on évalue l'évolution donc de la tumeur. Je dis on parce que je l'évalue avec lui. On se retrouve, quelqu'un de très, très gentil à Nancy, monsieur Thaïlandier, très humain, vraiment très très humain. J'ai rencontré beaucoup de médecins, beaucoup de neurochirurgiens, neurologues, très très humains, beaucoup d'empathie, c'est fou.
Des gens dont on n'entend pas souvent parler, mais qui sont vraiment de vrais héros, hein, et qui deviennent, quand on affronte l'épreuve de la maladie, qui deviennent nos héros, bien évidemment.
C'est ça.
Je voudrais quand
des
même
héros cachés.
Des héros cachés. Je voudrais quand même m'adresser à toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir et vous rendre hommage quand même, Florent, parce que sur cette libre antenne, on a souvent bien évidemment des gens qui témoignent d'épreuves de la vie, hein, et de petits tracas du quotidien aussi. Mais je voudrais souligner quand même la luminosité de votre témoignage parce que n'oublions pas que voilà que vous affrontez la vie quotidiennement. Avec cette tumeur et que c'est tout de même un sacré challenge et que j'ai l'impression que vous avez envie de dévorer la vie chaque matin que Dieu vous accorde.
C'est ça, c'est exactement ça. Bah moi, ça m'a, comme je dis, ça m'a réveillé en 2016. Hein. J'ai trouvé du plus de sens dans ma vie. D'un seul coup, il y a eu un objectif qui s'est mis en face de moi. Va faire rire les gens. Arrête de prendre pour moi. Je me prenais pour un businessman. J'essayais de négocier. Je savais même pas pourquoi. J'avais mon job donc acheteur dans une société scientifique et je me disais voilà, tu vas te mettre en costume cravate. Tu vas essayer de négocier. Tu vas bien gagner ta vie, mais pour en faire quoi en fait ? Bien gagner ma vie pour en faire quoi ? Et d'un seul coup, on me dit t'es malade. Le temps est compté. Je me suis mis à faire rire les gens pour rien, juste pour les faire rire. Et là, d'un seul coup, je me sentis heureux.
C'est formidable.
Donc, si c'était vraiment, si on me laissait le choix, est-ce que tu préférais revenir dans ta vie d'avant sans savoir que tu es malade ou est-ce que tu es d'accord pour être malade avec cette épée de Damoclès au-dessus de toi, mais maintenant tu es devenu parfait inconnu ? Eh bien, je préférais être devenu parfait inconnu.
Mmh. Oui, c'est, je le dis souvent sur cette antenne, l'épreuve nous rend plus aguerri, plus fort, plus avisé. Lorsqu'on n'a pas traversé l'épreuve, alors je ne dis pas que c'est une tare, hein, et je souhaite à qui écoute cette libre antenne ce soir de connaître l'épreuve le plus tard possible dans la vie. Il faut savoir et répéter ce soir encore ici, et vous le savez, vous qui êtes des aficionados de cette libre antenne, je vous le dis souvent, l'épreuve, quoi qu'il arrive, même si la vie est formidable, qu'elle peut être belle, l'épreuve nous attend, quoi qu'il arrive. Nous en traverserons plusieurs dans notre vie, et je vous le dis souvent, on ressort aguerri, on ressort plus affûté de ces épreuves, donc... à ne pas en douter, le témoignage de Florent ce soir montre combien, d'un seul coup, la valeur de la vie, mais au-delà de ça, la valeur de ce que l'on peut être, de ce que l'on peut désirer, vouloir, prend un sens sans doute tout à fait inattendu, mais décuplé quand d'un seul coup, on s'aperçoit que cette vie peut être écourtée ou qu'elle est en danger. Et en cela, je trouve que vous en parlez très bien, mon cher Florent. Donc, on vous retrouve sur Internet, donc sur YouTube, hein, le parfait inconnu officiel. Sur Instagram, je suppose que c'est pareil, et sur TikTok,
ouais,
pareil.
Le parfait inconnu.
Tout attaché.
Alors,
hein,
sur les autres plateformes, j'ai mis Speroni-du-bas Florent parce que le parfait inconnu c'était trop long à mettre. Donc, j'ai mis mon vrai nom. Je m'appelle Florent Speroni.
Très bien. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie mille fois d'avoir pris de votre temps. Je remercie
c'est
au passage ma collaboratrice Julia Freund qui a travaillé sur votre histoire, hein, et vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on connaissait des choses de vous, mais il nous a semblé important, et Julien en premier, important de creuser, de lire votre bouquin et d'en savoir plus sur vous avant d'échanger avec vous. Donc c'est en partie
très
grâce,
gentille, Julia, d'ailleurs.
C'est grâce à elle que voilà. Que, oui, bah elle est très gentille. Bah ils sont tous très gentils, mes collaborateurs. Vous savez pourquoi?
Je les connais pas les autres. Alors
bon, il y a Florian, il y a Laurent, mais c'est parce que moi aussi je suis très gentil, donc je m'entoure de très gentils.
C'est vrai.
Voilà, il vaut mieux être dans un monde de gentils, vous savez. Et puis il y a plein de gens gentils.
Non, ça c'est des conneries, ça. Il n'y a pas que des gentils. Ça.
Ah non, non, je vous dis, il vaut mieux s'entourer de gens gentils.
D'accord.
Ah non. Il n'y a pas que des gentils, vous avez raison. Il n'y a pas que des gentils. Merci en tout cas, Florent.
Bah, merci à vous.
Et puis si vous voulez savoir un peu plus sur Florent, bien évidemment, Le Parfait Inconnu est sur toutes les plateformes, en tout cas tous les réseaux. Merci Florent, bonne soirée.
Bonne soirée à vous également.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Parfois nous la rêvons, mais elle n'existe pas. Ce n'est qu'une intuition. La mer n'existe pas. Parfois nous la croyons, mais elle n'existe pas. N'existe pas, elle va sur nos croyances, de l'aube jusqu'à l'errance, comme un vaisseau sans mât. La mer n'est plus ici, la mer n'est plus là-bas. Qu'elle est partie, mais elle n'existe pas. Mais n'est pas du voyage entre ici et ailleurs, entre ciel et là-bas, mais elle n'existe pas. Parfois nous la rêvons, mais ça n'existe pas. Ce n'est qu'une intuition. Ça n'existe pas. Parfois elle nous attire dans cette certitude. Qu'elle m'aime comme elle respire, la mer n'existe pas. La mer n'existe pas.
La mer n'existe pas, c'est un titre que nous aimons bien, et nous aimons bien Art Mengo aussi, et la voix d'Art Mengo qui passe souvent sur cette libre antenne. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire au 739 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous accueillons maintenant Sylvie sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Bonsoir.
Je voulais tout d'abord faire un super coucou chaleureux à Florent qui était avec nous tous là la première heure. Quelle jolie personne, c'était un très chouette moment de radio encore.
Oui, oui, c'est magnifique d'entendre... voilà, d'entendre un témoignage comme celui-ci. Je partage totalement votre avis, ma chère Sylvie. Qu'est-ce qui vous amène, vous, Sylvie ? Vous habitez où ?
Alors, moi, j'habite en Creuse.
En Creuse, d'accord.
À Guéret.
D'accord. Et quel, où ça, exactement ?
À Guéret.
À Guéret, d'accord. Et quel âge avez-vous ?
J'ai 59 ans. Vous êtes très curieux, Olivier.
Oui, bah oui, c'est ce qui fait un peu ma particularité, c'est que je suis très curieux. Alors, qu'est-ce qui vous amène ? Dites-moi.
Alors moi j'appelle pour une de mes amies qui habite dans le Perche,
oui,
à côté de Mortagne au Perche, un petit village qui s'appelle Loisailles.
Oui, je connais Mortagne au Perche.
Ouais, bah, je sais bien, je sais bien. Nous sommes normands, vous et moi.
Oui, oui.
J'appelle pour cette amie qui est dans une situation de précarité importante. Cette dame, comme chacun de nous, a travaillé toute sa vie. Elle a fait des heures de ménage.
Oui.
Et dans l'objectif d'acquérir sa maison.
Oui.
Donc, dans laquelle elle avait un loyer auparavant, elle devait un loyer auparavant. Et puis, elle a voulu, en 2008, accéder à la propriété et acheter cette maison qui était déjà dans un piteux état. Malheureusement, bon, bien sûr, elle a fait l'acquisition de cette maison, parfait, mais elle n'a pas été en mesure, mon amie Jacqueline, de pouvoir faire les travaux dans cette maison qui se fissurait de plus en plus. Aujourd'hui, bah, les fissures sont conséquentes puisque la maison doit avoir 3 ou 4, je crois que c'est été qu'on dit, vous savez, les trucs en fer qui...
Pour tenir les murs.
Oui, c'est été, c'est ça.
Oui, c'est ça, il me semble.
Ok. Et donc, évidemment, la maison est classée. Alors, elle est allée voir, bien sûr, l'assistante sociale, une assistante sociale. Le maire de notre village aussi s'est déplacé l'année dernière en lui disant que bah, de toute façon, il faudra quitter cette maison tôt ou tard, mais assez rapidement tout de même, puisque l'habitation est classée habitat indigne.
D'accord. Ça, c'est, mais... je ne savais pas ça.
Moi, j'ai oublié, moi non plus.
Je trouve toujours formidable, vraiment, je vous le dis comme je le pense, que quelqu'un acquiert une propriété. Mais il y a des fissures dans sa propriété, c'est sa maison. Qu'est-ce que ça peut foutre à qui que ce soit si cette personne habite dans cette maison ? C'est quoi le problème ? Elle ne met en danger personne à part elle.
Oui, finalement. Voilà. Elle se met en gros danger.
Oui.
Elle se met en gros danger. Alors, évidemment...
mais c'est son choix, on est d'accord.
C'est son choix,
c'est
sa liberté.
Et c'est son bien.
Et c'est son bien.
Et c'est sa liberté. Parce qu'on a déjà eu, on a déjà eu un témoignage comme ça d'une dame, il y a 2 mois. Pareil, expropriation, la mairie la met dehors, de chez elle.
Oui, oui, c'est ça.
Mais c'est insensé.
Oui, c'est hallucinant. Moi, moi, ce qui me fait mal au cœur, Olivier, alors c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté pour intervenir auprès de vous et de la communauté de la Libre Antenne sur Europe 1, parce que je suis dans le désarroi. Elle est dans le désarroi, cette femme. Cette femme qui a travaillé toute sa vie, qui a une toute pauvre petite retraite de rien du tout. Oui. Alors voilà ce qu'on lui propose aujourd'hui. C'est-à-dire que il faut absolument qu'elle quitte cet endroit. Et elle, c'est une dame de la campagne. Elle a toujours vécu dans cette maison-là depuis qu'elle est bébé, hein, et elle avait l'intention d'y mourir.
Hein. Oui.
Et donc, il va. La proposition qui lui est faite, c'est éventuellement d'aller vivre dans un HLM. Elle n'en a pas envie.
Bien
elle a
sûr.
Ses petits chats, elle a sa petite vie. Elle en a nullement envie. Ça fait pas partie du tout de son état d'esprit. Et elle va devoir payer un loyer. Alors, c'est la cerise sur le gâteau, c'est triple peine. Première peine, donc, elle achète une maison 50 000 euros qui est vétuste. Deuxième peine, elle doit quitter cette maison alors qu'elle voulait y vivre toute sa vie. Et troisième peine, en plus, avec sa petite retraite, elle va devoir payer un loyer.
C'est insensé, voilà. Vous, rappelez-moi le nom de la commune sur laquelle elle vit.
Loisaille.
Loisaille.
L-O-I-S-A-I-L.
Bon, ben moi, je demande au maire de Loisaille ce soir au nom de quoi il va exproprier une de ses administrées qui a toujours vécu là. Donc, s'il est maire, je suppose qu'il a toujours vécu là, lui aussi.
Oui, oui, c'est un très, très bon maire. C'était le maître d'école.
Bon, mais si c'était un très, très bon maire, pourquoi on n'en serait pas une cagnotte pour...
voilà, j'y ai pensé.
Peut-être faire les travaux nécessaires pour cette dame. Mais
j'y ai pensé.
On va la faire mourir, cette dame.
Voilà, c'est ce que je lui ai dit il y a un an à notre mère que j'adore, hein, parce qu'on se rencontre tous les ans et on passe une soirée ensemble, on dîne ensemble. Quand je reviens dans le Perche, on passe toujours un moment pour parler du pays, etc.
Oui, oui.
Et moi, je lui ai dit, mais elle va mourir. On peut pas faire ça. Elle va mourir.
Bien sûr qu'on va, on va la tuer, cette dame. Et puis, enfin, je ne sais pas, ce pays est de plus en plus insensé. On met les gens contre leur gré, sous tutelle. Alors parfois, c'est justifié.
C'est salutaire.
Mais il y a plein de fois où on a eu des témoignages sur cette antenne hallucinants. Dans ce pays, maintenant, on décide pour vous. Vous passez 70 ans. Mais moi, je peux vous dire un truc, c'est que moi, ça ne se passera pas comme ça. Hein.
Moi non plus, Olivier, ça, je peux vous le jurer trois fois.
Mais oui. Parce que là, vous avez travaillé, vous avez cotisé. Parce que quoi qu'il arrive, même si vous avez un petit salaire, vous avez payé des impôts, vous avez payé des charges sur ces petits salaires. Vous avez contribué à faire marcher ce pays. J'entendais tout à l'heure dans le journal qu'on allait servir 40 000 repas par jour pendant les Jeux Olympiques. Qui paye ces 40 000 repas, à votre avis? Mais non, mais il faut dire les choses.
C'est clair.
C'est notre participation à nous.
Mais bien sûr.
Alors, on va virer les gens de chez eux maintenant parce que leur maison est insalubre. Non, mais on marche sur la tête.
Bon, c'est vrai qu'elle est très, 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 très,
mais
très
fissurée. Peu importe cette dame, l'intérêt.
Elle veut rester là.
Si on lui demande ce qu'elle veut et qu'elle dit je veux rester là, quitte à ce que mon toit me tombe sur la tête et me tue, c'est son droit. Voilà.
Oui, mais ça dépend, parce que moi, les informations que m'a données monsieur le maire, monsieur Langevin,
oui.
Les infos qu'il m'a filées, en fait, c'est même pas lui qui décide, c'est la préfecture, je crois.
Oui, oui, c'est fort possible que monsieur Langevin ait raison. Tant qu'il ne signe pas, monsieur Langevin, je crois que rien n'est possible.
Oui, j'espère, mais il n'a pas signé encore. Il n'a pas encore signé l'arrêté à la mairie.
Mais je ne sais pas, il y a combien de travaux dans cette maison qui a coûté 50 000 euros, hein, je crois.
Oui, il y a peut-être 50 000 euros de travaux. Hein.
Ah,
elle est vraiment capoute. Hein.
Oui.
Elle est vraiment capoute. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai très peur pour Jacqueline, parce que j'ai peur que la maison, bon, elle se fissure de plus en plus. Et puis, avec les, comment dirais-je, avec les problèmes climatiques, météo, la chaleur intense l'été, le froid l'hiver, la pluie, etc., le dérèglement climatique, c'est vrai que la maison, elle travaille.
Hein. Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Parce que je crois qu'à l'origine, cette maison, elle est sur quelque chose de pas stable. Enfin, elle existe depuis longtemps, hein, je ne sais pas combien d'années, je ne suis pas habilitée à vous le dire. Mais je crois qu'il y a, parce qu'en fait, dans notre village à nous, il y avait autrefois des carrières, le village a beaucoup de, comment dirais-je...
Oui, des trous sous les maisons.
Je ne sais plus comment. comment ça s'appelle. Hein.
Oui, bah c'est l'équivalent de trou, hein, de toute façon.
Oui, c'est ça. Donc, voilà. Bon, alors, chez Jacqueline, je ne sais pas, mais il y a un autre problème, en tout cas, et le terrain, et je ne sais pas, parce que je ne suis pas une professionnelle dans ce domaine. En tout cas, j'ai très mal pour elle. Hein. Je trouve que c'est pas juste.
Mais qu'est-ce qui peut donc venir en aide à Jacqueline ce soir?
Ben, moi, je me disais que comme il y a beaucoup d'auditeurs et qu'il y a une fraternité entre les auditeurs de la Libre Antenne d'Europe 1, je me suis dit, ben, je vais voir vos conseils éclairés. Peut-être que nous avons aussi des juristes qui écoutent la Libre Antenne. Oui. Je sais que c'est une émission qui est très écoutée. Moi, je suis vraiment dans la capacité de trouver la solution, si ce n'est que j'ai pensé hier aussi, mais seulement hier, c'est très curieux, à cette histoire de cagnotte. J'ai dit, quand je verrai Monsieur Langevin cet été, je vais lui proposer qu'on lance une cagnotte et qu'on contribue.
Ah oui, parce qu'il y a une cagnotte litchi,
cette maison.
Voilà, une cagnotte litchi lancée avec... je sais pas, le support du maire qui contacte même les journaux locaux du coin là-bas.
Bien sûr.
Et que, vous savez, il y a souvent des gens qui sont prêts à donner 1 euro, mais comme 5 euros, comme 10 euros. Et puis, parfois, on est fortement surpris par la solidarité dont vous parlez, Sylvie. Et si ça se trouve, ça pourrait marcher.
Oui, tout à fait. Les petites rivières font les grands ruisseaux.
Exactement.
Et c'est curieux parce que je n'y ai pas songé auparavant. C'est hier au soir, après avoir échangé avec Florian, je me suis dit, mais t'es bête, pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Pourquoi tu n'as pas pensé à faire ce genre de choses, hein, et à voir avec Monsieur le maire, à voir comment on pourrait l'articuler? Cela dit, je comprends bien que Monsieur le maire voudra sans doute se protéger par rapport aux instances supérieures. Je voilà.
Complètement, mais c'est normal, sans doute, sa fonction fait qu'il doit être redevable.
C'est ça.
De vous voyez, de la loi, de compte.
Exact.
Il va pas aller contre le préfet.
Mais, non, voilà.
Mais bon, encore une fois, Jacqueline, au moment où on parle, elle est dans sa maison ce soir.
Oui, elle est dans sa maison. Elle sait que je vous appelle.
Oui.
Parce que je l'ai eu en grande détresse dimanche. Je l'appelle régulièrement, à peu près toutes les semaines, toutes les deux semaines.
Oui. Elle dort, dort où
elle dort dans cette maison.
D'accord. Et elle dort bien, ça va? Elle dort.
Oui. Bon, elle se tracasse parce qu'elle est de plus en plus inquiète.
Mais ce qui la tracasse, je vais vous dire, c'est pas que sa maison s'écroule. Ce qui la tracasse, c'est qu'on la mette dehors.
Oui, c'est ça qui la tracasse.
Mais oui, on est venu l'embêter, cette dame, alors que, vous savez, des maisons comme ça, il y en a plein en France, hein, plein, des maisons en mauvais état,
oui.
mais encore une fois, mais les gens qui n'ont pas les moyens, demain, vous êtes en train de m'expliquer qu'on est en train d'expliquer à Jacqueline qu'elle va aller en HLM alors qu'elle est dans sa maison à la campagne, qu'elle a toujours vécu à la campagne, et la vraie campagne là-bas, hein. Voilà, c'est pas une campagne à la Saint-Germain-des-Prés, c'est la vraie campagne.
Oui.
On va la mettre dans un HLM et on va lui demander en plus de payer un loyer alors qu'elle a,
elle a
travaillé toute sa vie à faire du ménage. Donc on imagine combien cette dame a dû se priver pour acquérir ce bien.
Oui, elle s'est beaucoup privée, beaucoup.
Mais c'est une évidence.
Elle a contracté un emprunt, pardonnez-moi, je parle en même temps que vous, en même temps que vous, Olivier, je m'en excuse. Et en plus, elle a contracté un emprunt de 20 000 euros. C'est pas rien pour une dame qui...
Bien sûr.
Pas rien.
Bien sûr.
C'est pas rien. Enfin, moi, j'en connais, étant issue d'un milieu, d'un petit milieu, j'en connais les privations. Donc, je sais que pour elle, ce n'est pas facile et que nous étions d'ailleurs très fière quand elle a acquis cette maison, parce que pour elle, c'était le Graal quelque part, et c'était justifié. Je veux dire, quand on travaille toute sa vie, qu'on fait des efforts et qu'on obtient enfin quelque chose, c'est important. Et puis dans notre génération, en tout cas la génération de nos parents et grands-parents, c'était presque vital d'être propriétaire, alors que bon, c'est que c'est une hérésie quelque part, parce que propriétaire ou pas, ça ne change rien. On est locataire sur la terre, c'est déjà pas mal. Mais on nous inculquait autrefois, l'accès à la propriété, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Mmh, hein.
Et, Et voilà. Donc, et ce qui est embêtant, c'est qu'il y aurait peut-être une possibilité de faire une construction, donc d'abattre sa maison et de faire une construction en lieu et place. Mais le souci, c'est que elle est à 500 mètres à vol d'oiseau du clocher qui est classé. Donc, ils ne peuvent pas faire n'importe quelle construction.
D'accord.
Voilà. Donc, voilà, j'aimerais bien... je suis ravie que vous ayez pensé à cette histoire de cagnotte, parce que, voilà...
Mais c'est ce qui me vient naturellement, si vous voulez, parce que, bien évidemment, cette dame va avoir besoin de solutions. Et aujourd'hui, vous savez, y a des gens qui sont capables même de donner 500 euros, parce qu'il y a des gens qui ont les moyens. Et bon, et si on n'a pas... Si on réunit, allez, ne serait-ce que 20 000 euros, vous voyez, 20 000 euros, il y a déjà de quoi faire dans une maison, hein. Surtout une maison qui en coûte 50. Je ne veux pas croire qu'il y ait 50 000 euros de travaux dans une maison.
Ah bon, je ne sais pas.
Non, dans une maison qui en coûte 50 000, on ne va pas la doubler. Il faut sans doute s'occuper de ses fissures. Et je pense qu'avec 20 000 euros, il y a quand même de quoi faire. En tout cas,
bon, très bien.
Je ne suis pas un spécialiste, hein, mais déjà avec 20 000 euros et de la bonne volonté, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi des entrepreneurs qui peuvent participer à ne pas faire payer plein pot, hein, ce type de travaux, et être solidaires. Mais moi, je vais vous dire, ça me révolte complètement d'entendre qu'on est capable de mettre quelqu'un de dehors de chez lui, en fait, de chez lui. On parle aujourd'hui du droit à mourir dans la dignité, hein, et on est presque sur ce même type de débat.
Bien sûr, c'est même le débat.
Voilà, si on habite une maison qui peut tomber, mais si c'est notre choix, c'est notre propriétaire et c'est notre vie. Au nom de quoi on vient se mêler de notre vie?
Oui. Non, puis moi, je suis convaincue, connaissant cette dame depuis ma tendre enfance, je suis certaine que Jacqueline va être hyper malheureuse. Enfin, je la vois pas vivre en appartement.
Mais c'est certain.
Je ne la vois pas vivre loin de Mortagne-au-Perche. Enfin, voilà, dans la campagne à Bazoches ou je ne sais où, même si c'est pas très loin. Parce qu'entre temps aussi, elle a fait l'acquisition, elle a passé son permis tard. Après, elle a fait l'acquisition de sa voiture. Enfin, petit à petit, vous voyez. Mmh. Donc c'est pas rien quoi. Hein. Elle se doit d'avoir une retraite paisible, parce que ça c'est sacré d'avoir de pouvoir être sereine et d'être bien. Et j'espère que ça va pouvoir s'arranger et qu'on va peut-être avoir la lumière de certains auditeurs et que peut-être les choses vont pouvoir se faire. En tout cas, je serai tellement heureuse.
Mais de toute façon, ça mange pas de pain de lancer ce type de projet. Encore une fois, je vais vous dire, cette histoire, on peut en sortir et tout le monde peut en sortir la tête haute. Et je pense à monsieur le maire. Hein, et à son conseil municipal pour venir en aide à une des plus démunies d'entre nous, en fait. Voilà l'action que ce soir l'on demande aux administrés de cette région-là et de cette commune. Il y a quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a fait du ménage, sans doute du ménage en plus chez vous, qui nous écoutez, qui habitait cette commune. On peut pas faire ça.
Non, on peut pas faire ça.
Mais non.
Je suis complètement d'accord. Or, Antoine, je vous laisserai les coordonnées de Jacqueline parce que je lui ai dit, si toutefois vous aviez besoin de la joindre. Hein. Donc voilà, je vous laisserai hors antenne ses coordonnées téléphoniques. Mmh. Et puis, j'espère que je vais rentrer en contact avec monsieur le maire. Hein. Je vais l'appeler en lui disant voilà ce que j'ai fait, on va écouter le replay.
Mais oui, vous pouvez lui dire de nous appeler. On peut mettre quelque chose en place pour entreprendre quelque chose pour que Jacqueline puisse rester chez elle. Enfin,
c'est vraiment chouette.
Vous vous doutez bien que j'allais pas vous dire autre chose de toute façon.
Non, il n'y avait pas de risque.
Déjà, je vais vous dire, je trouve que ce pays. Aujourd'hui, j'étais chez un huissier
oui.
qui m'écrit depuis 2 mois, tous les 2 jours, il m'envoie des... Bon, voilà, pour des, je suis producteur, donc pour des charges avec des paiements à 60 jours, donc j'avais pas été payé, donc je pouvais pas payer quelque chose que je n'ai pas, hein.
Bien sûr.
Mais si vous auriez vu tous les dossiers qu'il y avait partout, ça dégorgeait de partout, et je me disais, mais, et je le dis souvent sur cette antenne, ce pays, on passe notre temps à recevoir des papiers, tout est réglementé, tout est amendé, on prend des amendes de tous les côtés, et des pénalités de retard, enfin, c'est quand
pour
même...
Pour rien.
Et voilà, et aujourd'hui, on est en train de nous virer de chez nous.
Ouais, ouais. Mais moi, j'ai des exemples aussi de pénalités, pardon Olivier. J'ai des exemples, je ne vais pas en parler parce que mais c'est affligeant, c'est hallucinant. Mais parce qu'on marche sur la tête et je crois qu'on a perdu pour une majeure partie d'entre nous, parce qu'il y a encore de très belles âmes et de très jolies personnes. Heureusement, du reste, mais on marche sur la tête et on n'est plus du tout dans le... On n'est plus cartésien, on n'est plus réaliste, on est dans une autre dimension, je ne sais pas. Quelle est cette dimension ? Mais en tout cas, on s'éloigne de l'humanité à mon grand désespoir, hein, parce qu'on se dit être quand même dans une société évoluée, etc.
C'est big deal, ça. Hein.
Oui, ce sont des... Voilà. Et je trouve qu'on régresse, parce qu'on n'est pas capable de tendre la main à notre prochain dans certains cas. On reste individualiste. On a des tonnes de papiers, mais c'est affligeant. Même moi, à 59 ans, quelquefois, je ne m'y retrouve pas. Bon, d'une part, parce que je suis complètement à l'ouest concernant tout ce qui est démarches administratives, parce que ça ne m'intéresse pas. Et c'est un papier qui tire l'autre, et c'est affligeant, quoi. Donc il faut passer 150 coups de fil à Pierre, à Paul, à Jean, à Jacques, pour savoir comment on fait, comment résoudre le problème, comment ceci, comment cela. Et souvent, à la fin, ça ne change rien, parce que de toute façon, vous devez payer. Parce qu'il faut
payer. À la fin, vous devez payer. Il faut payer, tout le temps, payer. Il y en a ras-le-bol de payer, moi, je vous le dis, quoi.
Ouais.
Que, si vous voulez, aujourd'hui, on ne peut pas être aveugle. Moi, je vis à Paris, je croise les cortèges là, de gens du gouvernement avec des motards partout, des bagnoles à ne plus en... Voilà. Mais tout ça, c'est payé. C'est nous qui payons. Hein.
Bien sûr.
L'autre jour, je suis passé devant l'Assemblée nationale, il y avait 80 voitures avec des chauffeurs qui attendaient. Qui
bien
paye
sûr.
Tout ça ?
Bien sûr.
Bon, voilà. On est... Aujourd'hui, dans un pays qui vit au-dessus de ses moyens. Quand vous pensez que en Europe du Nord, y a des ministres qui se font virer parce qu'ils ont acheté une barre de chocolat ou un ticket de métro sur le budget de l'État, vous voyez
la sanction tout de suite.
Non, mais vous voyez les galaxies qui nous séparent de ces gens-là.
Ah oui, oui, oui.
Mais nous, on continue à avoir une espèce de faste comme ça. Bon, je vous parle même pas d'avoir le Sénat, hein, qui est une double assemblée. On se demande, non mais on marche sur la tête, qui coûte un pognon, mais à ne plus savoir quoi en faire, et on est là, tranquille, et on va piquer dans les caisses des avocats, et on va piquer, parce que c'est ça aussi qui se passe aujourd'hui, que l'argent, on va le chercher, non mais, écoutez, je vais finir par me prendre un contrôle, moi.
mais non, on a le droit d'être réaliste, j'ose espérer qu'on a encore... le droit de s'exprimer. La liberté d'expression, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Mais vous savez, encore que la liberté d'expression soit encore là dans ce pays, mais bon, au régime où ça va, peut-être que tout ça, on va peut-être aussi nous l'enlever, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas très optimiste, mais on va dire
non, mais
que...
Voilà, on vit au-dessus de nos moyens. J'entends tout à l'heure 40 000 repas, les Jeux Olympiques et tout, mais je me dis, mais ok, super, hein, les Jeux Olympiques, c'est super, mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, finalement, ces manifestations sportives qui sont à la charge du pays, essentiellement, les Coupes du Monde, toutes les grandes manifestations... Plus aucun pays ne veut les accueillir.
Ah ben bien sûr, parce que ça coûte un
bras. Voilà.
Oui, même 2 bras.
Voilà. Il ne faut pas oublier que cet argent-là, c'est nous qui ce sont nos impôts. Ce sont nos impôts. Voilà.
Eh oui, tout ça c'est un peu triste. Mais
donc
bon.
Il y a quand même, je pense, à revoir l'utilisation de tout un tas de choses. Mais il n'y a pas une volonté, vous voyez, des politiques, parce qu'ils savent très bien qu'eux, ils croquent tous de ce régime-là. Quand je dis... croquer. C'est-à-dire qu'ils sont, à partir du moment où on devient un politique élu en France, eh ben, on profite de ce système-là. Ce système de bon salaire, je sais plus, quand on est ministre, on est payé à vie. Enfin, tout un tas d'inepties comme ça qui sont incroyables.
Mais nous, on ne dit rien non plus, hein.
La France est quand même un des pays qui manifeste le plus. Je vais vous dire, moi j'ai des amis italiens, anglais, allemands, belges qui me disent, vous les Français, vous êtes souvent dans la rue, vous la ramenez et tout. Ben, on va pas manifester à chaque fois qu'on nous enlève un truc, vous voyez. Donc,
Bien sûr.
C'est ça le souci.
Bien sûr, mais je veux dire que je pense que si on s'impliquait plus, hein, et si on allait plus voter, il y a de moins en moins de gens qui vont voter, et on a vu les dernières élections, on est loin de la maison de Jacqueline, mais peu importe, on a vu le résultat des dernières élections, il y a quand même un désintérêt pour la citoyenneté, moi de mon point de vue, mais ce n'est que de mon petit point de vue, je trouve ça dommageable, parce qu'il est important de s'exprimer, chacun en sa libre et conscience, ça c'est très personnel et chacun fait ce qui lui plaît, mais en revanche il me semble que c'est très ennuyeux de ne pas donner son point de vue et de ne pas aller voter.
Je donne un autre point de vue, 2 milliards d'euros, record historique des radars en France. Vous ne pensez pas que dans les 2 milliards, on pourrait débloquer 20 000 balles pour Jacqueline, par exemple ? Non mais vous voyez, je sais pas quoi. Il y a tout un tas de choses qui m'échappent. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système médical est en défaillance totale. Notre système justice est totalement à la rue. Le faste de ce pays n'existe plus, quoi. Donc voilà. Et on est dans des administrations hyper lourdes qui prennent des décisions. Vous voyez, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu l'excellente série sur Canal+, d'Argent et de Sang, qui évoque l'arnaque au carbone, où on se rend compte qu'il y avait un magistrat qui était rattaché aux douanes et qui avait alerté sur cette arnaque et que on n'a pas voulu arrêter ce processus de payer la TVA sur la taxe, l'achat de carbone. Voilà, et que ce sont des milliards qui se sont envolés dans la poche d'escrocs. Voilà. Et cette série montre que l'État était des ministères étaient au courant et n'ont pas voulu arrêter parce que c'était une initiative française et qu'il ne fallait surtout pas passer pour des couillons en le signalant et en l'arrêtant surtout, aux yeux de tous les autres. Résultat des courses, des milliards arnaqués partout dans le monde. À des milliards français, hein. Arnaqués par des escrocs partout dans le monde.
J'ai bien compris.
Enfin, on s'éloigne de la maison de la pauvre Jacqueline. En tout cas, je pense que organiser une canette litchi, une canette, voilà.
Une cagnotte, pardon.
Je commence à être fatigué.
Elle peut avoir des canettes dans
voilà,
sa petite ferme.
Cagnotte litchi pour Jacqueline, avec l'aide de nos confrères de la presse locale qui sont souvent mobilisés sur ce genre de choses et sensibilisés surtout parce que je pense à tous ces journaux locaux qu'il y a là-bas dans le Perche. Voilà, il y a des confrères qui pourraient reprendre la chose, qui pourraient aider en tout cas à médiatiser comme on le fait ce soir l'histoire de Jacqueline. Pour essayer, en tout cas essayer ça, je pense que ça peut donner ses fruits.
Ouais, c'est une excellente idée.
Voilà, et si monsieur le maire veut nous donner des nouvelles, il sera le bienvenu sur cette antenne.
Oh ouais, de toute façon, je lui ferai part de notre échange. Je ne sais pas s'il a écouté la libre antenne, peut-être pas, mais en tout cas, je lui ferai part de notre échange, soyez-en certains.
Alors moi, vous voyez, je pense que dès demain matin, il va être au courant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent la libre antenne, et je peux vous dire que dès qu'on met une municipalité ou un organisme en cause, le lendemain, on a soit un coup de fil à la direction, soit une lettre commandée. Donc, si, soyez sûr qu'il va être au courant.
Bon, d'accord.
Voilà. Donc, voilà. Bon courage, ma
chère Sylvie.
Merci,
Olivier.
Et tenez-nous au courant, n'hésitez pas.
Merci du fond du cœur.
Je vous en prie.
Merci à vous, merci à Julia, à Florian qui sont vraiment délicieux. Merci à l'ensemble des auditeurs de la Libre Antenne. Et à tout bientôt, merci de ces moments que vous nous offrez chaque soir.
Je vous en prie.
Des moments de grande intensité émotionnelle et ça n'a pas de prix.
Bah écoutez, merci beaucoup et bonne nuit à vous, ma chère.
Merci,
Sylvie.
Je vous embrasse très fort,
revoir,
Olivier.
Aussi,
je vous embrasse. Merci.
qu'à l'autre bout de l'étang, je regarde l'aube claire s'allonger sur les conifères. À l'aune, à l'orée du jour, le soleil sera de retour. En dépit des années noires, des années folles, des heures de gloire, à la lisière du torrent, j'irai m'asseoir sur un banc. On ira faire un tour de barque, on ira déjeuner au parc, on s'embrassera dans le cou, il y aura tout autour de nous.
If you listen, you can hear it call. Whalery.
Volant qui plane, Violet Benjamin de son prénom, avec les tout premiers morceaux d'une longue, longue carrière, celle de Benjamin Violet, qui nous ravit ici sur la Libre Antenne. Il est 23h58 et vous le voyez avec l'intervention de Sylvie pour la Maison de Jacqueline. Nous voilà à parler de sociétal, de politique et j'en profite pour vous signaler l'interview, la grande interview de Sonia Mabrouk qui vous donne rendez-vous dans Europe 1 Matin pour cette grande interview CNews Europe 1. Des entretiens sans concession comme sait le faire Sonia. Demain matin, elle recevra Béatrice Brugère, magistrate à la tête du syndicat Unité Magistrat SNMFO, auteur de Justice, la colère qui monte aux éditions de l'Observatoire. Tout un programme, chers amis. Nous accueillons Sandrine maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir. Alors on a plus qu'une minute avant l'info. Donc Sandrine, vous m'appelez d'où ?
Je vous appelle de Normandie, du Mont-Saint-Michel exactement.
Du Mont-Saint-Michel ? Vous habitez au Mont-Saint-Michel ?
Alors non, mais pour vous situer, je suis pas loin du Mont-Saint-Michel.
Pas loin du Mont-Saint-Michel, d'accord. Et, et quel âge avez-vous, Sandrine ?
J'ai 49 ans.
D'accord. Alors, nous allons parler de vous dans les minutes qui viennent et on va parler d'une relation toxique que vous vivez actuellement. Donc vous avez beaucoup de mal à vous défaire. Mais si vous le voulez bien, on laisse passer l'info sur Europe 1 et comme ça, on rentrera de plein pied dans votre témoignage. D'accord ?
D'accord, pas de souci.
Je vous dis à tout de suite, Sandrine.
À tout de suite, merci.